brillant PD de la campagne, comme il s'appelle lui-même, est devenu grand. Grand parce qu'il est adulte maintenant, grand aussi par les engagements. Lui qui, depuis une dizaine d'années, se bat contre les inégalités et en a même fait son métier. Jonathan Hutte du Fossé en a fait du chemin depuis qu'il a quitté le bassin minier et ses complexes de gamin de parents pauvres. Ce sont ses parcours de combattants que je vous invite à venir découvrir tout l'été sur France Inter. Ceux obligés de se battre pour arriver là où ils sont aujourd'hui, là où on ne les attendait pas, redoublant d'efforts au prix parfois de sacrifices. Je vous invite à mettre la lumière sur ces compagnons de galère qui ressemblent à tant de millions d'autres. Les batailles menées, les obstacles franchis, les discriminations parfois aussi, dans une France qui a bien du mal à faire respecter l'égalité, mais où ils ont enfin trouvé leur place. Des parcours de combattants qui éclairent la France d'aujourd'hui, la France de demain.
France Inter. Nassira El Mouadem. Parcours de combattants.
Bonjour Jonathan Hutte du Fossé.
Bonjour Nassira.
Merci d'être en notre compagnie. Votre parcours de combattant à vous, il démarre à Douvrin, où vous êtes né et où vous avez grandi. Une petite ville de 5500 habitants, en plein bassin minier situé entre Lens et Béthune. Et aujourd'hui, vous dirigez le développement en France d'EPIC, une fondation internationale qui finance des organisations sociales luttant contre les inégalités touchant les jeunes particulièrement. Et en 6 ans, EPIC a levé 25 millions d'euros et aidé 44 organisations dans 11 pays du monde. Qu'est-ce que ce choix de carrière professionnelle dit de votre parcours ?
EPIC a même levé un petit peu plus puisqu'on a dépassé les 30 millions désormais. Qu'est-ce que ça dit de moi ? Ça dit que je pense que j'ai la conscience que le monde ne tourne pas rond, que le chemin que j'ai parcouru et les entraves que j'ai traversées m'ont malgré tout permis d'en être là où je suis, mais que tout le monde n'a pas cette capacité-là et que mon devoir à moi et mon travail à moi, c'est de pouvoir faire changer les choses et de le faire durablement, positivement. Et je pense que c'est tout le sens de mon engagement professionnel.
Alors on va revenir un petit peu en arrière. On va revenir justement en plein bassin minier à Douvrin. Quels souvenirs vous gardez de votre enfance là-bas ?
De ce dont je me souviens, j'en garde un souvenir relativement positif. J'ai eu une enfance avec des parents qui étaient aimants, certes pas dans l'opulence du tout, on était relativement pauvres, mais on a manqué de rien. Et avec une mère qui faisait tout pour que, d'une part, on ne manque de rien et que ça ne se voit pas. Alors évidemment, c'était un peu raté, mais en tout cas, je pense que c'est dans sa façon à elle de déplacer les montagnes que j'épuisais moi la force de déplacer les autres.
Et justement, votre mère a consacré beaucoup de temps à votre éducation, à la vôtre, à celle de votre frère, à celle de votre sœur. Elle a aussi travaillé en dehors de la maison. Je dis ça parce que travailler à la maison, c'est un vrai travail, non reconnu par la société et encore moins rémunéré. Ça, c'est pour la petite parenthèse féministe. Mission de ménage, babysitting. Elle a ensuite été ouvrière dans l'usine automobile où travaillait votre père. Aujourd'hui, elle est femme de ménage dans une maison de retraite. Votre père, lui, a donc a longtemps été ouvrier, puis est passé contremaître. Est-ce que lorsque vous étiez enfant, Jonathan, vous aviez conscience de ce milieu social dans lequel vous avez grandi ?
J'en avais en partie conscience. Quand j'étais chez les miens, pas du tout, puisque moi je viens d'une famille, alors mon père a 5 frères et sœurs, ma mère en a 9, et ils sont tous à peu près dans le même niveau social. Et donc du coup, c'est à l'extérieur de la maison que je pouvais me rendre compte de ça, donc en allant soit chez les copains ou les copines, soit en allant à l'école. Et ensuite, ben, plus on grandit, plus on se rend compte en fait de cet écart qui nous éloigne entre notre réalité sociale, notre milieu d'origine et celui de nos amis, puisque ben, on n'a pas les mêmes maisons, on n'a pas les mêmes voitures, on n'a pas les mêmes vacances.
Alors si vous en aviez pas conscience, comment vous le viviez, vous gamin ?
Initialement, plutôt bien. Enfin, en tout cas, je manquais de rien, donc moi, ça allait. Alors oui, j'ai pu surprendre ma mère une fois en train de pleurer en appelant son père pour avoir un peu d'argent parce qu'on n'en avait plus. Et donc, c'est toujours très difficile en réalité.
Et ça, ça marque.
Et ça marque au fer rouge. Enfin, et donc du coup, on se dit, ok, mais moi, j'ai pas envie de ça. Enfin, en tout cas, pour moi, plus tard, ce sera pas ça. Et ensuite, ben, c'est aussi. Je pense que dans ma famille, on a beaucoup essayé de jouer du théâtre social. C'est-à-dire, on gardait les apparences, on faisait face, mais en réalité, quand je préparais l'émission, je réfléchissais et je me disais, mais c'est vrai, ma mère disait toujours, il faut 2 fois de la viande par jour dans son assiette, etc., etc. D'une part, pas du tout. Mais pour elle, c'était un vrai marqueur social de richesse. Ouais. Sauf que cette viande, elle venait d'où ? Elle venait de chez Lidl, elle venait de chez Aldi, dit, elle venait de chez ED, donc des magasins où la viande d'une part, je suis désolé, mais c'est de la merde, pour reprendre Jean-Pierre Coff, et où en plus, elle n'avait pas du tout de qualité. Donc en réalité, c'est vraiment du théâtre social.
Il y a aussi des moments assez violents, hein, comme lorsque votre maman achète une tondeuse à cheveux pour ne pas gaspiller, je mets plein de guillemets évidemment, d'argent chez le coiffeur, qui déclenche des moqueries. Et alors du coup, pas seulement des enfants, mais des adultes.
Des adultes complètement. On était en primaire et effectivement, mes parents considéraient que d'aller chez le coiffeur pour nous enfants, c'était du gâchis. Et donc en fait, l'argent devait servir à autre chose que des problèmes esthétiques. Et donc ma mère avait eu cette très bonne idée, au demeurant, d'acheter une tondeuse pour nous tondre les cheveux à mon frère et à moi, parce que c'était peut-être 20 euros d'économiser dans le mois finalement. Et à l'époque, j'allais faire des ateliers de théâtre dans municipaux. Donc c'était vraiment la municipalité qui organisait ça. Et donc on devait jouer une pièce. Alors c'était pas exactement ça, mais c'était un peu Oliver Twist ou Les Misérables. Enfin en tout cas, une pièce dans laquelle les enfants avaient une condition sociale quand même très pauvre. Quand je suis arrivé avec cette nouvelle coupe de cheveux, l'animatrice Margaret me dit « Ah mais c'est formidable, c'est vraiment cette coupe de cheveux qu'il faut pour le personnage parce que ça fait vraiment pauvre ». Et ce vraiment pour, en fait, qu'elle donnait au personnage, elle se rendait pas compte qu'elle me le donnait à moi, parce que c'était pas, je n'ai pas fait cette coupe de cheveux pour faire le personnage. Ma mère m'a fait cette coupe de cheveux parce que c'était notre condition sociale. Et donc, en fait, c'est une claque immense que d'entendre ça et de se dire, d'accord, donc en fait, je suis pauvre.
Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, vous en aviez eu honte de ce milieu social? Et si oui, quand précisément dans votre parcours?
Je me souviens que les réunions parents-prof, par exemple, même si ma mère, je savais qu'elle faisait très attention à elle et justement elle sauvait les apparences, je sais que je lui mettais un peu la pression de « surtout tu te tiens bien hein. ». Et ce qui est drôle...
Ah oui, c'est vous qui vous lui mettiez la pression.
Je pense qu'à un moment je l'ai fait, ouais. Oui. Et par exemple, ma mère, je l'adore, et c'est un sketch à elle toute seule parce que elle a un accent du Nord. Je viens du Nord, moi j'en avais aussi un originalement.
Oui, vous l'avez plus vraiment. Là.
Je l'ai plus du tout. Parce que j'ai travaillé dessus en réalité. Ouais. Et que je le reprends quand je vais chez mes parents. Je peux me mettre à parler un petit peu comme ça, parce que je sais que ça va créer une proximité avec eux. Et donc ma mère, pour en revenir à ça, ma mère, elle a l'accent du Nord. Et donc du coup, quand vous la voyez au quotidien, je vais pas dire que c'est Madame Tuche, mais bon, mais un peu de ça, et c'est mignon. En revanche, quand ma mère doit aller faire une réunion parent-prof, quand elle doit avoir une relation un peu institutionnelle, appeler la caisse d'allocation familiale ou appeler le docteur, d'un seul coup, c'est Nadine de Rothschild, ma mère. Et donc, au téléphone, ça va donner « Oui, bonjour, monsieur Anicotte. Oui, bonjour, c'est madame Hude. » Et jamais elle ne parle comme ça. Elle aurait dit plutôt, naturellement, « Oui, bonjour, c'est madame Hude. » Et donc, en fait, c'est drôle parce qu'il y a une transformation réelle du théâtre social pour garder la face et dire « Non, non, moi, je fais partie du même monde que vous, je suis comme vous. »
Vous dites même que pendant longtemps, vous avez cru que vous étiez adopté, que vous ne pouviez pas être l'enfant de vos propres parents.
Ouais.
C'est assez dingue quand même.
Oui, et quand mes parents partaient se balader pour des raisons X ou Y, je montais dans leur chambre, j'ouvrais le placard administratif et je remuais tout, je cherchais partout l'affiche d'adoption qui montrait que je n'étais pas l'enfant de Geneviève et Daniel. Alors, peine perdue, parce qu'en plus on se ressent comme des gouttes d'eau avec mon frère, avec mon père, avec ma mère, etc. Mais d'une part, il y avait cette conviction profonde que je n'appartenais pas à ce milieu-là. J'ai toujours entendu ma mère dire « bah c'est pas possible, c'est pas nous qui avons fait celui-ci ».
Est-ce que du coup vous diriez que vous vous êtes construit, professionnellement parlant, scolairement avant, en réaction à vos propres parents?
Ah bah 10 000%. Moi c'était « tout mais pas ça ». Et donc je faisais
tout. Tout mais pas ça.
Ah ouais, c'était tout mais pas ça. Je voulais pas conduire une Dacia, en fait j'avais intégré deux choses. D'une part que je ne voulais pas ça, et que ce qu'on me proposait était moins bien. J'ai beaucoup fait de chemin aujourd'hui et je considère pas que ce qu'ils m'ont proposé était nul. Je considère que j'ai intégré ce que l'on souhaitait que j'intègre, c'est-à-dire que la classe populaire, le milieu populaire, que ce soit d'un point de vue culturel ou social, était moins bien que les milieux d'origine plus favorisés, etc. C'est faux. Mais j'avais très très bien intégré, et donc je ne voulais pas être eux, je ne voulais pas être comme eux, et ça a été vraiment, moi, mon carburant pour essayer, à ma manière, de m'extirper de tout ça.
Et ça allait très loin. Pendant longtemps, vous avez refusé qu'on vous appelle Jonathan, en prononçant le N, mais Jonathan, pour quelle raison?
Pour une raison à la fois simple et complexe, c'est que le prénom Jonathan, il renvoie une charge symbolique, culturelle et identitaire très forte. D'autant plus si je vous dis que mon frère s'appelle Kevin. Et que ma sœur s'appelle Morgane. On comprend tout de suite d'où je viens. Et en fait, c'est pas la même chose de dire ça quand on se présente aux gens que de se dire « Bonjour, ma sœur s'appelle Garance, je m'appelle Octave. » Vous voyez, on renvoie pas la même force symbolique derrière tout ça. Et donc, quand j'ai compris ça, quand je suis arrivé, donc j'ai fait un début de classe préparatoire, 3 semaines, mais quand je suis arrivé là-bas, qu'il y avait des Constances, qu'il y avait des Garances, qu'il y avait des Hippolytes, eh ben, j'ai compris que je pouvais pas dire que moi, j'ai dû le dire une fois, je pense, que je m'appelle Jonathan et que tout le monde m'a regardé avec des yeux ronds. Et donc, j'ai compris que Jonathan, c'était un petit twist qui me permettait quand même de me sauver un petit peu. Et donc, du coup, de mes 18 ans à mes 32 ans, donc ça fait 14 ans, donc quasi un petit peu moins que la moitié de ma vie, je me suis fait appeler Jonathan, qui n'est pas mon prénom.
Et vous avez d'ailleurs aussi tenté de brouiller les lignes avec votre nom de famille.
Tout à fait. Alors, oui et non. moi, je suis parti d'un... Mon nom patronymique, mon nom de naissance, celui de mon père, c'est Ude.
Ude.
Et j'ai des convictions féministes qui sont quand même très fortes. Et je considérais à l'époque que c'était impensable qu'on efface de ma généalogie la moitié de là d'où je venais, c'est-à-dire ma mère et sa famille. Et donc, du coup, j'ai souhaité ajouter, quand ça a pu être possible à 18 ans, le nom de ma mère derrière le nom de mon père. Donc, Ude, Du Fossé. Mais c'était pas complètement non plus dénué de sens, puisque je savais très bien qu'en disant Ude du Fossé, ou Ude du Fossé, ou Ude du Fossé, il y avait aussi une autre symbolique derrière qui était presque aristocratique et qui me permettait aussi de brouiller les pistes. Et cette réflexion-là, je l'ai eue récemment en me disant, mais en fait, ça n'était probablement pas que par pur féminisme que j'ai fait ça.
Cela me rappelle Annie Ernaux. En avril 1984, elle est l'invitée de l'émission Apostrophe de Bernard Pivot à l'occasion de la sortie de son best-seller La Place, et elle raconte qu'elle et son père, depuis son ascension sociale à elle, ne parlent plus le même langage.
Mon père ne savait pas parler le beau langage, le langage des classes dominantes. Il parlait encore un peu patois. Et il a désiré par-dessus tout, c'est que je fasse des études, que j'aie des diplômes, que j'aie tout ce qu'il n'avait pas eu. Et au fur et à mesure que j'obtenais ces diplômes, en même temps, moi, je changeais de monde. Et je n'ai pas été une enfant double, j'étais une enfant déchirée, je pense. Déchirée entre le milieu de mes parents et puis un milieu petit bourgeois que, automatiquement, je me suis mise à fréquenter. Et j'avais des intérêts différents des siens, je lisais, on ne parlait plus le même langage. Je crois que cette question de langage entre lui et moi, et c'était extrêmement important. Oui,
cela vous parle, ce qu'elle dit, Annie Ernaux?
Je le vis, encore aujourd'hui. Il y a quelques années, quand j'ai quitté Article 1, qui était une association d'égalité des chances, et que j'ai fait tout ce recul et cette prise de hauteur sur mon parcours et ma trajectoire, on m'avait proposé un poste de directeur du développement dans une autre association. Et quand je suis allé l'annoncer à mes parents, et que j'ai dit à mes parents que je devenais directeur du développement, ce qui en réalité n'est qu'un titre et ne dit absolument rien de la fonction que j'exerce, etc., j'ai eu deux réceptions complètement différentes entre ma mère et mon père. J'ai eu ma mère qui m'a dit « Waouh, mais c'est génial, c'est incroyable, qu'on vienne te chercher », parce qu'en plus j'avais été débauché, donc c'est vraiment le graal ultime. Hein. « Qu'on vienne te chercher pour te proposer un poste de directeur avec un beau salaire, etc. Oh, je savais qu'on ferait quelque chose de toi, etc. » Et mon père était presque déconfit à côté d'elle, et du coup je lui demande ce qu'il en pense, etc. Et en fait il y a eu un peu ce rejet entre nous. Il m'a dit « Directeur ». Et ça voulait vraiment dire pour lui, t'as trahi ta classe.
Vous passez de l'autre côté.
Tu n'es plus des nôtres. Et en fait, c'est deux visions de l'ascension sociale qui sont complexes, qui sont différentes, mais qui sont propres à ma famille. Et c'est que mon père a vraiment vécu ça comme une trahison. Et encore aujourd'hui, quand je vais passer quelques jours chez eux et que je suis en télétravail, mon père ne conçoit pas que d'être derrière un ordinateur est un travail. Il ne comprend pas que je suis au travail quand je suis chez eux derrière mon ordinateur.
Et comme beaucoup d'autres enfants, nous le verrons dans quelques instants, c'est l'école qui vous a permis de vous élever socialement. Même si vous en êtes persuadé, la méritocratie n'existe pas.
L'histoire d'un monde. Tu sais ce qu'on dit, y'a pas d'amour, y'a que des preuves d'après le juge. Toi t'existais depuis toujours, moi je te cherchais comme une excuse. Médicaments sans ordonnance, évidemment t'es l'évidence. Téléguidé par tes pouvoirs, auprès de toi chaque jour est victoire. Je veux m'endormir à tes échos, éternité cœur en dépôt. Terrain miné sera notre histoire, oh, terminé de tout et pour une fois. Kitoko na yo lokola, sanza na minzoto likolo. Yonde moteme pona ho, yonde na linga. Histoire d'amour, histoire d'amour, histoire d'amour. Oh, oh, histoire d'amour, histoire d'amour, histoire d'amour. Oh, oh, j'ai trébuché, je suis tombé. Tu m'as touché, j'ai succombé. Obsolescence déprogrammée, je t'aime à la perpétuité. Même si le monde est contre nous, je serai fort prêt contre toi. Je me fous de la mort qui dénoue, on se dira oui comme autrefois. Elle poucave les étoiles entre elles, on balançait ce que je voulais te dire. Toutes les belles choses que porte le ciel ne font qu'imiter ton sourire. Nako kovanda kinyate, mokili ebongi yeba. Bolingo yanga na yo, suka seliwa. Histoire d'amour, histoire d'amour, histoire d'amour. Oh,
fameux jardin Mamalalia, à toutes les saintes de Bahia, couleur café parfum vanilla. Oh mi amor, oh mi le mani, vivre sans toi c'est mimer la vie, c'est les péchés pires, c'est l'hérésie. Oh, c'est les lois loin d'Haïti. Alléluia, Ave Maria, fameux jardin Mamalalia, à toutes les saintes de Bahia, couleur café parfum vanilla. Oh mi amor, oh mi le mani, vivre sans toi c'est mimer la vie, c'est les péchés pires, c'est l'hérésie. Oh, c'est les lois loin d'Haïti.
C'était Histoire d'amour de Gaël Faye.
France Inter, parcours de combattant, Nassira El-Mohadem.
Nous sommes toujours en compagnie de Jonathan Hude Dufossé, directeur du développement à la Fondation EPIC. Avant de continuer à dérouler votre parcours, quelques secondes pour remercier Valentine Chedebois pour la programmation musicale, Mao de Butler de m'avoir aidé à préparer cette émission, Fanny Cohen-Moreau qui la réalise, et à la technique Ludovic Asselot. Vous étiez un excellent élève à l'école, Jonathan. Qu'est-ce que représentait l'école pour vous?
Bah, c'était
Il veut tout dire déjà.
il veut tout dire. Moi je dois tout à l'école gratuite républicaine. C'était vraiment pour moi une bouffée d'air frais, c'était vraiment de l'oxygénation par rapport à mon milieu d'origine. À la maison, c'était la télé qui régnait en maître ou en maîtresse. À l'école, je rencontrais des gens et ce qui m'intéressait le plus, c'était les profs. Aujourd'hui, j'ai une gratitude profonde pour l'école telle que je l'ai connue et un amour et une reconnaissance incroyable à tous les professeurs que j'ai rencontrés, à tous les professeurs que j'ai pas rencontrés mais qui font un travail formidable en général avec pas beaucoup de moyens et qui se donnent à 10 000% pour essayer justement de faire de leurs élèves des petits Jonathan.
Vous êtes l'un des rares à avoir obtenu votre baccalauréat au sein de la famille et le seul à détenir un bac plus 5. Mmh. Comment vous le viviez, cela? Est-ce que c'était une incompréhension? Est-ce que c'était de la colère, voire même de la culpabilité?
Non, à l'époque, c'était même de la fierté. Alors, je remets les choses en place. Hein. Tout seul à avoir un bac plus 5 sur 25 cousins et cousines. 4%. 4% de ma famille, c'est-à-dire justement, en réalité, un bac plus 5. Allons voir dans d'autres familles plus favorisées, allons voir ses résultats. Donc, à l'époque, moi, c'était une fierté. Je me disais, oh, c'est super, je réussis, c'est génial, je suis trop fort. Mais en fait, quand je dis ça, je me rendais pas compte que, d'une part, j'ai mis un poids, une pression énorme sur ma petite sœur derrière, qui n'a pas du tout eu les mêmes facilités que moi. Et en plus de ça, je me rendais pas compte que, j'y étais pour rien.
Très bon élève, vous êtes alors accepté en prépa à Lille. Vous le devez notamment à une enseignante, votre professeur d'italien au lycée, qui a été peut-être celle qui a le plus compté dans votre parcours scolaire. Elle s'appelle Vanina, c'est elle qui vous pousse à vous inscrire en classe prépa, dont vous n'aviez jamais entendu parler, et elle qui vous dit un jour, je la cite, « Un garçon de votre niveau doit regarder des films d'auteur, à commencer par Fellini ». Le 3 décembre 2020, vous décidez même de lui écrire une lettre pour la remercier, et lui dire aussi l'impact qu'elle a eu pour vous. Nous avons pris contact avec elle et à son tour, elle vous a laissé un message vocal. Écoutez.
Jonathan, je voulais vous dire merci pour les nouvelles que vous m'avez données et pour l'histoire que vous m'avez racontée. Il faut dire que c'est le genre d'histoire que j'affectionne tout particulièrement, avec un jeune personnage prometteur et attachant qui déjoue l'adversité et le déterminisme, une trajectoire d'émancipation qui conjugue élévation sociale et fidélité à son milieu d'origine, et enfin un engagement qui se poursuit en faveur de l'égalité des chances. Bref, un grand bravo pour ce parcours. Mais avant de vous laisser, je dois encore vous remercier pour la gratitude que vous m'avez témoignée et les souvenirs que vous avez éveillés. D'autant que je n'enseigne plus depuis 10 ans et qu'en fait, j'ai peu l'occasion de repenser à cette époque où j'ai débarqué, jeune agrégée d'italien, dans le bassin minier. Pourtant, on dirait que cette période a compté pour d'autres que moi aussi, et ça, c'est vraiment génial. Allora, viva Pasolini, viva l'educazione e tanti auguri.
Voilà le message de Vanina Bernard-Léoni.
Elle est exceptionnelle. Et c'est drôle parce que, alors je l'ai un peu stalkée depuis toutes ces années, donc j'ai vu qu'elle n'était plus propre.
Vous l'avez un peu cherchée quoi, sur voilà, les réseaux, c'est ça?
Exactement, j'ai tapé sur des moteurs de recherche son nom pour voir ce qu'elle devenait et croiser son profil sur des réseaux sociaux professionnels, voir des vidéos d'elle. Donc je suis pas très étonné de ce qu'elle est devenue. Et en réalité, c'est une personne, c'est une femme, une professeure qui, à l'époque, moi, m'a vraiment... élevée, elle m'a poussée, elle m'a... Et en fait, avant même de me dire ce qu'il fallait que je fasse, elle a ouvert le champ des possibles. Mmh. C'est-à-dire que on dit beaucoup que chez les jeunes issus de milieux populaires ou qui ont une trajectoire d'égalité des chances, l'autocensure est le premier frein. C'est pas le premier frein. Le premier frein, c'est le manque de connaissances et le manque de conscience des parcours éducatifs auxquels on peut accéder.
Parce qu'en plus, j'imagine que autour de vous, les élèves qui étaient avec vous au collège et au lycée, vous ressemblaient un peu. Donc
ils me ressemblaient beaucoup. Et certains avaient la chance d'avoir des parents cadres ou profs qui, du coup, connaissaient un peu eux quelles étaient les études post-bac auxquelles on pouvait se référer. Moi, la première fois que j'ai entendu classe préparatoire, c'est Vanina Bernard-Léoni qui m'en a parlé. Je n'avais aucune idée de ce que c'était. Alors, rendez-vous compte que j'ai fait toute ma scolarité en étant le premier de la classe, en ayant entre 15 et 17 de moyenne par trimestre, et que c'est au deuxième trimestre de mon année de terminale qu'on me dit « Faut regarder la prépa, maintenant oui. !» Donc, en fait, c'est ce que j'ai fait. J'y suis allé, elle a poussé mon dossier, mes profs étaient convaincus que c'était là-bas qu'il fallait que j'aille, mais j'étais pas du tout préparé.
C'est marrant ce que vous dites, parce que moi, j'ai voulu faire une prépa, et quand j'ai voulu faire la prépa, c'était donc en terminale, et en fait, les sélections étaient terminées. Je n'étais évidemment pas au courant, comme vous, que les prépas littéraires existaient. J'avais plutôt un bon niveau, et quand j'arrive pour m'inscrire, je me souviendrai toujours, le directeur du lycée me dit « Mais vous êtes gentille, mademoiselle, mais les sélections, elles sont terminées depuis 2 mois. » Et donc, évidemment, je suis obligée d'aller à la faculté. Mais du coup, quand vous faites le recul sur votre propre parcours, est-ce qu'il n'y a pas aussi une incompréhension de se dire que finalement, tout ça n'a reposé que sur une seule personne?
Ah si, mais je crois que c'est une injustice immense. Combien de Jonathan croisent des Vanina dans leur vie? Est-ce qu'on peut se contenter, nous, dans la sixième puissance du monde, de se dire que l'orientation des jeunes, elle repose sur une rencontre éventuelle? C'est de la folie. Mmh. Et donc il faut vraiment, comme on a massifié le bac, ben il faut massifier l'accompagnement à l'orientation post-bac. Et en fait, si on n'explique pas aux gens ce qu'ils peuvent faire, eh ben ils vont regarder ce qu'il y a autour d'eux, ils vont faire comme le grand frère, comme la petite sœur, ils vont faire les classes qu'il y a à côté de chez eux. Et puis, ben, ce sera très bien. Ils resteront dans leur classe d'origine et tout le monde sera content.
Sauf que dans cette prépa, vous n'y êtes pas à l'aise. Vous découvrez un nouveau monde social avec des enfants de profs, de cadres, des Jean-Charles, des Constances, des Hippolytes, comme vous disiez tout à l'heure. Mm-hmm. Et surtout des références et des codes culturels que vous ne connaissiez pas du tout. Au bout de 3 semaines seulement, vous inventez un mensonge à la direction de la prépa pour ne pas poursuivre. Pourquoi?
Ben, déjà, j'avais pas envie de m'avouer que je baissais les bras et que je le faisais à cause des autres. Ça me renvoyait dans ma famille. Enfin, je veux dire vraiment. C'est-à-dire que j'avais rien d'autre à faire, du coup, que de retourner dans ma famille, même si j'y étais toujours, parce que je faisais une heure aller, une heure le matin, parce que mes parents
pouvaient
pas
me...
Entre Lille et Douvrin. Donc, une heure de transport en commun, pour pouvoir être à 8 heures au lycée. Donc, faut se lever très tôt, il faut se coucher très tôt, mais il faut étudier entre temps. Donc, moi, tout ce temps que je passe dans les transports, je le passe pas à étudier. Donc, déjà, je suis perdant, en réalité. Donc, en fait, ben, j'ai abandonné au bout de 3 semaines, en inventant un mensonge, en me faisant croire que un job de garçon au père m'attendait en Angleterre. En fait, c'était la fac dans anglais de Villeneuve-d'Ascq qui m'attendait.
La fille au père était en fait une fille à Villeneuve-d'Ascq. Est-ce que vous l'avez vécu comme un échec personnel ou alors comme l'échec de l'institution scolaire?
Je l'ai vécu vraiment comme les deux, en me disant que j'étais pas prêt à ça, mais que si j'étais pas prêt à ça, c'est parce qu'on m'y avait pas préparé. Mmh. Et il est évident que avec toute la bonne volonté, avec tout même toute la bienveillance qu'a eu ma prof d'italien à mon égard, et tout ce qu'elle a essayé de faire pour compenser, je pense, ce qui me manquait entre le moment où on m'en a parlé et le moment où je suis arrivé en classe prépa, ça n'était pas suffisant. Les autres étaient prêts depuis 10 ans.
Oui. Vous vous dirigez vers l'université, donc. Mmh. Vous y étudiez le fameux anglais. Chez Mademoiselle de Villeneuve-d'Ascq, puis en master de communication politique. Certains parlent de méritocratie pour raconter ces ascensions sociales, notamment via la scolarité, mais pas vous.
Pas
vous n'y croyez pas.
Bon, pas une seconde. J'ai vraiment aucun mérite. Mais alors, c'est difficile pour les gens d'entendre ça pour une raison qui est que quand moi je leur dis ça, d'une part, le mérite qu'ils avaient projeté sur moi s'effondre, et donc peut-être un peu l'admiration de dire ah le pauvre petit le PD brillant de la campagne qui a vraiment déjoué toutes ses entraves, tous les freins et qui aujourd'hui y est arrivé. Alors déjà d'une part
oui, c'est une histoire à laquelle on a envie de croire.
C'est une belle histoire, mais en fait j'ai absolument rien fait. Donc du coup les gens quand je leur dis ça ils disent ah bon mais pas du tout, et en plus ça leur renvoie chez eux l'idée que peut-être que eux aussi sont pas méritants. Et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement intime finalement quand on dit ça. Et donc du coup, les gens comprennent pas toujours. Mais moi aujourd'hui, quand je regarde mon parcours, je suis né en France. Qu'est-ce que j'ai fait pour naître en France ? Absolument rien. Mon passeport me permet sans visa de visiter plus de 170 pays. Si j'étais né en Palestine, je pourrais en visiter moins de 40. Et donc du coup, déjà de base, j'ai rien choisi. Ensuite, est-ce que j'ai choisi d'être bon à l'école ? Absolument pas. Donc, est-ce que j'ai travaillé à l'école ? Très peu, en réalité. Que ce soit de la première classe de maternelle jusqu'à la fin de mon master, j'en ai presque pas foutu une. Donc, en fait, je ne mérite pas ça non plus. Et ensuite, ben, si j'ai réussi à m'en sortir, c'est parce que j'avais la capacité, j'avais les ressources à l'intérieur de moi pour le faire. C'est-à-dire que j'avais une forme d'envie qui me transcendait, de me dire tout sauf mes parents. Donc, ça s'est pas fait non plus sans dégâts. C'est-à-dire la haine que je pouvais éprouver pour mes parents. J'ai, un moment, quand même, j'ai coupé les ponts avec mes parents. J'ai refusé de faire des Noëls avec eux parce que je les mettais à l'écart. Je voulais pas les voir. Je voulais pas voir là d'où je venais. Et donc, en fait, finalement, j'ai pas fait réellement d'efforts, j'ai pas vraiment fait de travail. J'ai juste bénéficié d'un certain nombre de privilèges intellectuels, géographiques, etc., qui m'ont permis aujourd'hui d'être là où j'en suis. Mais je dirais pas aujourd'hui que j'ai du mérite. Et en plus, si vous me dites ça, ou quand les gens me disent ça, je dis quoi à mon frère, à ma sœur?
Ouais,
ils ont pas
autres,
de mérite. Ils ont pas de mérite parce qu'ils ont pas fait un bac plus 5 ou parce qu'aujourd'hui ils ont pas un poste de directeur. Mmh. Absolument pas. Mon frère, ma sœur, ils sont absolument méritants. Et je vous interdis de dire qu'ils le soient pas.
Je ne l'ai pas dit. C'est aussi votre enseignante qui vous aide à refuser qu'on vous rejette en raison de votre homosexualité. Et ce sera un moteur permanent pour vous dans votre construction et dans vos engagements associatifs et professionnels. C'est ce que nous verrons après ceci. When you were here before, couldn't look you in the eye. Just like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. We'll be right back.
whatever you want. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here.
C'était Creep, signé Radiohead.
France Inter. Parcours de combattants. Nassira El Moadem.
Je vous imagine très bien, Jonathan Dufossé, dans votre chambre, à écouter casque vissé sur les oreilles à 12 ans, cette chanson. Elle vous évoque quoi, justement?
Ce qui est drôle, c'est
vous
que,
qui l'avez choisi.
C'est moi qui l'ai choisi, effectivement, et votre émission fait faire de drôles de choses, parce qu'en réalité, c'est une chanson qui me suit depuis très longtemps, parce que je l'adore, et que je fais partie de ces gens qui, quand ils vont mal, écoutent des chansons tristes pour aller encore plus mal, et après, ça va très bien.
Vous voulez en parler?
Non, tout va très bien. Mais du coup, ce qui est drôle, c'est que je me suis penché un peu plus sur les paroles en préparant l'émission, et ce que ça dit, I'm a creep, I'm a weirdo, I don't belong here, c'est, je suis bizarre, je suis un étrange, et je n'appartiens pas à ce monde. Et c'est très drôle, parce qu'en fait, c'est typiquement, je pense, que ce que peuvent ressentir des transfuges de classe.
Et puis aussi des enfants victimes d'homophobie, puisque vous êtes donc homosexuel. Et d'ailleurs, vous l'écrivez avec des mots très forts dans la lettre que vous avez adressée à votre professeur d'italien du lycée. Vous lui dites « Moi, petit PD de la campagne, ayant subi du harcèlement scolaire les deux dernières années de collège à cause de l'homophobie crasse et idiote de mes camarades, et ayant grandi dans la honte de cette homophobie intériorisée. À quel point ça a rongé l'enfant que vous étiez à cette période-là ? »
Déjà, faut savoir que je peux dire PD parce que je le suis. Donc, les personnes qui ne sont pas homosexuelles ne peuvent pas dire PD. Donc moi, je me permets de le dire parce que c'est un retournement du stigmate. C'est-à-dire que moi, le PD qu'on m'a envoyé de ma cinquième à ma fin de troisième, qui m'a détruit, hein, psychologiquement. Moi, j'ai fait de la phobie scolaire. J'ai eu des comportements, on va dire, très mauvais par rapport à moi-même pendant cette période. Sauf que, puisque les autres me disaient que j'étais PD déjà, c'est eux qui m'ont fait comprendre que j'étais PD. Et on m'a fait comprendre...
Les camarades de classe,
ceux que je pensais être mes amis à la base, qui m'ont dit PD, PD, PD. Et d'ailleurs, sur mon prénom, il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est que ils utilisaient mon prénom comme une arme contre moi. C'est-à-dire, ils disaient « Jonathan !» Et en fait, ce « Anne », moi, qui perdurait dans le temps, je ne le supportais plus. Donc le Jonathan, il m'a aussi beaucoup sauvé. Mais je suis en cinquième, on me dit que je suis PD. D'abord, j'apprends. Et effectivement, je le comprends. Mais j'apprends aussi que c'est pas bien. Du coup, j'en parle
d'être,
pas.
D'être homosexuel,
du coup, c'est ce que ça veut dire. Sauf que, entre la cinquième et la troisième, quand tous les jours je me fais insulter, parfois cracher dessus par mes anciens camarades de classe, donc déjà il y a le fait d'être trahi par ses propres amis, puisqu'en fait, entre le début du collège où j'avais plein de copains-copines et la fin du collège, je n'avais plus personne, mais quand je dis que je suis allé passer le brevet des collèges, j'étais tout seul. J'avais plus aucun copain-copine. Et vous pouvez pas en parler chez vous, en fait. Parce que si vous expliquez ça à vos parents, vous devez leur dire que vous êtes pédé. Est-ce qu'en cinquième, j'étais prêt à leur dire et mes parents étaient prêts à le recevoir? Absolument pas. Donc du coup, j'ai vécu ça tout seul. J'en ai parlé ni à mon frère, ni à ma sœur, ni à mes amis, ni à mes parents, ni à ma famille. Et j'ai souffert en silence de la cinquième à la troisième.
Et c'est à cette période-là, justement, que la première émission de télé-réalité est diffusée à la télévision. Nous sommes en 2001 et vous êtes au collège. C'est l'époque Stevie, Loana, et Stevie aussi. Et il a compté pour vous, en termes de représentation, Stevie, de quelle manière?
Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que tout est concomitant. C'est-à-dire, 5e, c'est 2001, c'est les insultes qui commencent à arriver avant cette période-là. Et je me souviens que ça devait être un samedi soir, je crois. J'étais chez ma grand-mère, j'étais tout seul, je regarde cette émission. Alors, ça me fait sourire de passer ça sur France Inter, un petit plaisir. Mais surtout,
plaisir partagé.
Je pense qu'on oublie complètement. Aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut de la Terre et la réalité. On oublie complètement qu'à l'époque, c'était absolument sociologiquement incroyable. Qu'aujourd'hui, ça permet quand même d'avoir des personnes qui y sont représentées qu'on voit nulle part ailleurs. Et donc, ça permet d'avoir des figures d'inspiration. Ensuite, on peut faire ce qu'on veut, mais en tout cas, ça permet de se voir, de se reconnaître et de comprendre plein de choses. Et moi, quand j'ai vu Stevie arriver, j'ai tout compris. Ça aide. Et de se dire, en fait, il y a d'autres gens comme moi qui existent sur cette planète. Et donc, ce que je suis est possible. C'est possible, ça peut être valorisé. et ça existe, et ça n'a pas à s'excuser d'exister.
C'est drôle ce que vous dites. Alors moi, je l'ai moins vécu en termes de représentation, quoique, souvenez-vous, il y avait aussi Kenza, et on voyait très peu de filles d'origine maghrébine, comme moi, à la télévision française. On voyait dans les séries des Noirs américains, etc. Et on pouvait aussi se sentir un peu représenté dans la vision d'autres minorités dans les séries américaines. Mais c'est vrai que dans les séries françaises ou les programmes français, on en voyait très peu. Donc c'est vrai que peut-être que ça, ça a joué. Mais c'est surtout que moi, j'allais pas au théâtre. Je n'allais pas à l'opéra, évidemment, à Romorantin. Il n'y avait pas d'opéra là où j'ai grandi. Et c'était une distraction, en fait, de regarder cette émission. Et ça, ça a compté, mine de rien, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, vous êtes un enfant de la télé. Moi, je suis aussi une fille de la télé. J'ai grandi avec la télé. La télé était allumée en permanence. Et ça a été aussi ça, Love Story, pour moi. Stevie, c'est la représentation, donc, qui vous permet de vous identifier. Mmh. Et vos parents, comment ils voient ça? Comment ils voient vous en train de regarder Love Story dans ce moment où, en fait, bah, vous vous révélez, quoi?
Je pense qu'il analyse pas trop, en réalité. Et pourtant, ce qui est drôle, c'est que l'été qui a suivi Love Story, j'éteins mes cheveux, j'ai peroxydé mes cheveux en blond. Et quand on allait en vacances au camping, les gens m'appelaient Stevie. Ils sont peut-être passés aussi un peu volontairement à côté de tout ça.
Oui. Et à quel moment vous leur révélez votre homosexualité?
Alors, je leur ai annoncé. Et pas révélé, j'ai annoncé, j'étais en fin de seconde. J'étais en fin de seconde parce qu'en fait, j'avais quitté ce collège qui était absolument meurtrier pour moi, je crois. Oui. Et arrivé au lycée, j'arrive dans un lycée qui est spécialisé en art, en littérature, machin et tout. Donc en fait, changement vraiment de décor, changement d'environnement. Oui. Et d'une part, tous les stigmates qu'on pouvait m'opposer auparavant sont valorisés, c'est-à-dire le travail est valorisé, en tout cas le fait de réussir scolairement parlant est valorisé dans ce lycée-là. J'arrive en classe européenne et je vois au milieu de la cour des personnes homosexuelles, gays et lesbiennes, ouvertement homosexuelles, qui s'embrassent, qui se tiennent la main, et en fait, eh ben, je comprends.
Ça vous amène la force, en fait.
Ça m'amène la force, en fait. Je savais que j'étais pédé, mais je savais pas que j'avais le droit. Et quand je vois ça, eh ben, je me dis, ok, c'est possible, j'ai le droit. Et ça m'a fait faire un chemin incroyable.
Nous savons donc que nous n'avons rien ôté à personne et qu'au contraire, par ce texte de loi, nous avons reconnu les droits de nos concitoyens dont la citoyenneté était sournoisement contestée et nous avons ouvert des droits à tous les autres couples. Nous savons aussi qu'il faut parler à celles et ceux qui ont été blessés ces jours derniers par des mots, par des gestes, par des actes. Leur dire qu'ils sont pleinement de cette société et que nous savons que la responsabilité de la puissance publique, c'est de lutter contre les discriminations. C'est une exigence du pacte républicain. Et lutter contre les discriminations, c'est évidemment ouvrir à tous les citoyens les dispositifs de droit commun ainsi que les plus belles institutions de la République. Nous voulons dire en particulier aux adolescentes, aux adolescents de ce pays, qui ont été blessés, qui ont été désemparés ces derniers jours, qui ont été dans un désarroi profond, immense, qui ont découvert une société où une sublimation des égoïsmes permettait à certains de protester bruyamment contre les droits des autres.
Ça, c'est un moment désormais historique pour nous tous et aussi pour vous, qui a compté dans votre construction. C'était synonyme de quoi, ce moment-là, dans votre vie de jeune adulte ?
Ben, c'est synonyme de libération, je crois. Parce que, enfin, on reconnaît que on est complètement égaux, homosexuels et hétérosexuels. À quelques PM après, on va dire. Mais ce que ça veut dire là, c'est que je suis pas moins égal qu'un autre. Et pas moins égal qu'un de mes copains. Ou qu'une de mes copines. Et en fait, dans un parcours, où si je reprends les choses un peu chronologiquement, je suis né en 1988, l'homosexualité était encore considérée comme une maladie mentale par l'OMS. Donc je suis né...
Par l'Organisation Mondiale de la Santé.
Absolument. Donc je suis né malade mental, faut le savoir. Jusqu'en 99, il y avait rien de possible pour nous. Et puis ensuite, quand le PACS est arrivé en 1999, qui était quand même un demi-droit, qui était déjà une première avancée, mais pas suffisante, et qui était toujours pas une question d'égalité, et ben, quand le mariage pour tous est arrivé après des débats qui ont été délétères, qui ont vraiment été destructeurs pour beaucoup d'entre nous, dans la communauté LGBT, et ben, c'est la libération, quoi.
Ouais.
C'est la libération, et moi, je viens d'un milieu dans lequel c'est passé avec vraiment beaucoup de facilité, en réalité. Mais quand on grandit, enfant, adolescent, et qu'on comprend qu'on n'est pas l'égal de ses camarades, et qu'on comprend qu'en fait, fait on est un petit peu moins bien qu'eux, finalement, à travers tout ça, ben c'est extrêmement difficile. Et moi je viens quand même, pour finir sur un peu cette chronologie là, d'un territoire dans lequel Christian Van Est, qui était député du Nord à l'époque, considérait que l'homosexualité non seulement était inférieure à l'hétérosexualité, et en plus de ça était nuisible à l'intérêt général. Donc quand en 2005-2006 moi je me prends ça dans la tête, et ben c'est quand même extrêmement compliqué. Et je reviendrai pas sur le fait que son collaborateur parlementaire de l'époque est aujourd'hui ministre de l'Intérieur.
Vous avez grandi donc à Douvrin. Quand vous revenez chez vous, et ce sera ma dernière question, et que vous revoyez un peu tous ces endroits où vous avez grandi, vous vous dites quoi? Et surtout, qu'est-ce que l'adulte que vous êtes devenu aujourd'hui dirait au petit enfant que vous étiez il y a quelques années?
Je pense que le Jonathan d'aujourd'hui dirait au Jonathan de l'époque « t'inquiète pas, ça va aller ». Parce que ce que je dis, c'est que quand on vient d'où je viens et quand on est ce que je suis, ben le champ des possibles est quand même très réduit à la base. Et quand on voit la façon dont évolue sa famille, eh ben on peut avoir beaucoup de doutes sur la capacité de s'en sortir ou pas. Et c'est pour ça que tout à l'heure, et je vais revenir un tout petit peu là-dessus rapidement, quand on parlait du mérite, ce qui me dérange avec le mérite, c'est qu'on l'utilise comme une arme contre les miens après, et qu'on se dit, ben si toi t'as réussi, si lui elle a réussi, tout le monde peut réussir, parce que quand on veut, on peut. Moi, je sais que quand on veut, on peut pas toujours, en réalité. Et que ce que je dirais à ce petit, c'est tu vas y arriver, et cette réussite, comme dirait Annie Arnaud, il faut qu'elle te permette de faire levier pour les tiens. Et donc, en fait, tout mon engagement d'aujourd'hui, c'est de permettre à des jeunes, à des enfants qui sont plus vulnérables que les autres, de pouvoir réussir malgré tout.
Merci Jonathan de votre générosité, celle qui vous a animé aujourd'hui avec moi dans ce studio de France Inter, et celle qui vous anime aussi au quotidien dans vos missions professionnelles. Bonne route, plein de combats à gagner, on vous le souhaite. Et nous, chers auditeurs, nous nous retrouverons samedi prochain, même heure, pour une nouvelle rencontre avec un combattant. I need to learn when this thing called love, when it's a mirror, baby. Can you see all those parts of me broken across the world? I need to find some kind of peace of mind. It's a demon, baby. When it comes, like my oldest friend, have you got a friend in the night? You said you miss me now. C'était Lose Your Head de London Grammar.